Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, AVS, ça veut dire à votre santé. Et comme l'émission est en direct, ça veut dire que voilà, on est toujours un petit peu juste au niveau du temps. Mais ça y est, il est installé sur son tabouret. Le docteur Réginald Allouche est avec nous. Comment ça va, Doc?
Ça va très bien quand je vous vois.
Merci d'être là. Médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui vous connaissent bien, cet aspect de la prévention qui est le pilier de votre action. Tiens, vous publiez un livre que vous êtes en train de montrer déjà à la caméra.
Le petit dernier.
Un livre coup de poing sous forme de coup de gueule, mais bon, comme c'est un coup de gueule à la Réginald Allouche, ça va, ça ne crie pas beaucoup.
Oui, on peut avoir des coups de gueule très gentils.
Voilà, c'est pas un livre pour critiquer, c'est un livre pour pratiquer et pour prendre sa santé en main.
Oui.
Ça s'appelle Sucre, l'ennemi numéro 1 chez Albin Michel. Et alors, à chaque fois dans vos livres, vous dévoilez un peu plus sur vous, finalement.
Oui.
Hein. Vous racontez que finalement, même dès le début de vos études, le diabète, ça vous a passionné. Et vous aviez compris qu'une épidémie allait se développer, mais dans les années qui allaient arriver. Hein. C'était dans les fin des années 70, vos études de médecine.
Non, moi, mes études de médecine, j'ai terminé en 84.
Ouais.
Et en 84, je m'en souviens parce que c'était le début des micro-ordinateurs portables. Et des micro-ordinateurs tout court d'ailleurs. Il y avait le Sirius Victor, l'Apple, enfin voilà. Et en fait, quand j'ai terminé mes études d'ingénieur, j'ai commencé à travailler à l'INSERM et j'ai commencé à développer les capteurs de glucose. Dans le cas du diabète de type 1.
Donc, quelle année, imaginez, hein.
84.
Ouais.
Oui, voilà.
C'était quand même très, très, très novateur.
C'était très novateur à l'époque parce qu'il fallait utiliser des photodiodes. On appelait ça des photodiodes, en fait, qui étaient sensibles à la luminosité. Donc, quand on mettait le sang sur la bandelette, la diode avait une résistance qui variait en fonction du contraste. Enfin, bon, voilà. Cela dit, je pense que c'est encore comme ça que ça marche. Hein.
Ils n'ont pas changé le procédé.
Non, ils n'ont pas changé. Les capteurs qu'on met sur le bras, ils ont changé le procédé. C'est pas du tout le même procédé. Mais le fait de lire sur une bandelette, vous savez, réactive, de mettre une goutte de sang, c'est quasiment toujours le même procédé.
Et rien n'était minimalisé à l'époque. Hein.
Non, à l'époque, il n'y avait pas de micro-ordinateur portable. On en a même développé un à l'époque. Et je salue tous les gens qui étaient, qui ont travaillé à l'INSERM 88, Philippe Boutin, Bertrand Auvert, tous ces gens-là qui ont été des précurseurs, des défricheurs. On a tout de suite compris que le diabète, c'était quelque chose.
Ouais. Mais c'était historiquement les premiers capteurs de glucose.
C'était les premiers capteurs de glucose.
C'est
absolument.
Devenu quoi votre découverte?
Ah, ma découverte, nous avons fait, parce que c'est toujours un travail collectif dans une unité INSERM. On a fait une très belle publication à IEEE, I3E, qui est une revue internationale des ingénieurs. Et voilà. Et après, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que les découvertes aillent chez les gens. À l'époque, vous savez, il y avait moins le côté public-privé où on sort une invention du public et on la met en. Et moi, j'ai tout de suite compris que c'était ça l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien inventé, mais il faut que les gens s'en servent. Ou sinon, à part une publication, c'est tout ce que vous en tirerez comme gloire. Alors que moi, ma gloire, c'est que ça serve aux gens. Voilà. Et c'est l'idée de ce livre.
Hein. C'était l'application. Mais, voilà. Mais pourquoi, à la fin de vos études de médecine, avoir justement décidé de le compléter par un cursus d'ingénieur biomédical?
Ça, c'est une passion. Une vieille passion. Je peux pas. Si je regarde quelque chose que je ne comprends pas, ça m'obsède. Il faut que je comprenne comment ça marche.
D'accord.
Voilà. Donc,
c'était complémentaire en fait pour vous dès le départ.
Pour moi c'était complémentaire et puis j'ai eu la chance de rencontrer, j'avais un ami qui était bien plus âgé que moi mais qui était un pur génie, qui avait Félix, qui était à la puissante, le syndicat de l'industrie métallurgique et mécanique, vous savez, c'est un syndicat très très puissant qui regroupe en fait tout ce qui se fabrique en France, voitures, etc. Et il m'avait dit, un jour on se voyait régulièrement, toutes les semaines on déjeunait ensemble et il me disait, tu sais, Réginald, l'avenir appartient aux gens qui parlent professionnellement deux langues. Parler deux langues, c'est donc, vous parlez la langue du docteur, mais vous parlez aussi la langue de l'ingénieur. C'est pas les mêmes langues. Et ça, dans la vie, c'est très très important de pouvoir faire la jonction entre deux mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler parce que c'est pas les mêmes mentalités. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et j'en suis très heureux parce que ça a changé ma vie, quoi.
Alors, pour en rester sur cette histoire des capteurs, vous comprenez que presque 40 ans plus tard, l'arrivée sur le marché des capteurs autonomes de glucose, c'est un signal évident, justement, pour être un nouvel outil de prévention.
Oui.
Et que vous voulez élargir à l'ensemble de la population.
Absolument.
Dans votre livre, puisque vous proposez un programme de 14 jours.
Oui.
Pour tout le monde.
Voilà.
Et là, vous rejoignez certaines influenceuses,
oui.
Hein, qui justement ont sorti ces capteurs.
On peut la se nommer, c'est Madame Achopsé, Voilà, qui a fait
Jessie.
Voilà, Jessie qui a eu
la vendeuse de gélules.
Voilà, qui a, je sais pas, je vais pas rentrer
dans... Non, mais c'est pas vous qui l'avez dit.
Voilà.
C'est moi qui dis.
Moi je pense qu'elle a eu un énorme mérite.
Oui.
C'est de mettre le pavé dans la mare et de dire voilà, il y a des choses qui existent. Bien sûr, elle est biochimiste, elle a vu ça du côté, mais elle a quand même bien enfoncé le clou.
Elle a vulgarisé l'usage.
Voilà.
Mais moi, ça fait,
voilà.
Je vous ai proposé quand même plusieurs fois de faire une émission avec elle. Hein.
Absolument.
Mais je voulais que vous soyez avec elle,
voilà,
pour qu'on ait à la fois le regard, voilà, du biochimiste et
du médecin.
Et du médecin,
voilà,
et juste pour qu'on ait
exactement
la globalité du spectre.
Et je pense qu'on est dans le même camp. C'est-à-dire que, en fait, moi, pourquoi j'ai écrit ce livre avec ce titre aussi un peu punch, c'est parce que je sais que la bataille collective, elle est perdue. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que les pouvoirs publics de tous les pays, je ne parle pas que de la France, réagissent à cette épidémie de diabète, il faudra 10 à 15 ans pour que les lois, les réglementations entrent en ligne de compte.
Même si les États-Unis, sous Obama, ça a bougé un peu. Madame Obama s'est emparée vraiment de la problématique.
Absolument. Mais la réalité de tous les jours, c'est que l'industrie agroalimentaire est une industrie qui fait vivre beaucoup de gens, qui doit nourrir beaucoup de gens, qui a des impératifs de rentabilité également, puisque je rappelle qu'une entreprise, c'est fait pour faire du chiffre d'affaires et du bénéfice. D'ailleurs, je le rappelle un peu, c'est que par la loi, une entreprise doit faire des bénéfices. Si elle ne fait pas de bénéfices, elle ne peut pas perdurer. Donc, face à ce lobby-là, c'est très très compliqué.
Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, le sucre n'est pas un poisson. C'est pas mauvais pour la santé.
Ah, alors là, vous attaquez très fort.
Non, mais jusqu'à preuve du contraire, vous le dites. Parce que c'est votre métier,
ouais.
Mais finalement, personne ne dit que... Ouais, pas de texte de loi qui dise finalement...
Le sucre aujourd'hui, il n'y a pas de... Enfin, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que le sucre n'est pas un produit naturel. Le seul sucre naturel, il se trouve dans le lait et dans les fruits. C'est tout.
Donc d'accord, lactose et fructose.
Et fructose. Bon. Le reste... Le saccharose, le sucre en poudre, ça vient de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, c'est traité, c'est chauffé, c'est écrasé, c'est cristallisé. Donc c'est pas un produit, parce que souvent le sucre bénéficie, oui, mais parce qu'on vit avec depuis 2 siècles. Mais la réalité, c'est que c'est un produit qu'on a découvert il y a 2 siècles. D'accord ? Qui a fait la fortune d'un port que vous connaissez au Maroc, qui s'appelle Essaouira, qui avant s'appelait Soumogador, puisque c'était le port qui était tenu par les Anglais, parce que ça a été souvent une ville qui est toujours restée anglaise, et c'était là où tout le sucre venant de l'Afrique sortait pour aller en Angleterre. Et donc le sucre, c'est une découverte. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la reine Victoria, vous le savez, aimait tellement de sucre, qu'elle avait des caries, elle n'avait plus de dents. Voilà, parce qu'elle mettait partout dans son café.
C'est vous qui nous l'avez raconté.
Ah oui, d'accord.
Mais on sait maintenant.
Voilà,
on sait. C'est bien de le rappeler.
Voilà.
Bon, vous.
Donc le sucre,
oui.
Au fond, l'idée c'est, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour la santé?
Mais qui nous dit que c'est mauvais pour la santé? Est-ce qu'il y a un texte de loi qui dit attention?
Aucun.
Regardez, le tabac c'est mauvais pour la santé.
Oui.
Donc fumer tue.
Aucun.
Vous l'avez indiqué sur les paquets de cigarettes.
Oui.
Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prouve que le sucre a dit. Alors.
Est-il addictif ou pas? Ça, on va y répondre.
Vous parlez d'additif alimentaire. Vous parlez du sucre.
Moi, je dis c'est un additif alimentaire. Voilà.
Qu'est-ce qui nous dit que finalement c'est mauvais pour la santé?
Eh ben, qu'est-ce qui nous dit? Tout simplement, c'est que quand on en consomme de façon excessive et qu'on est sédentaire, eh ben à ce moment-là, le sucre va commencer à ronger vos artères, petites et grandes. On a eu l'occasion ensemble d'en discuter, mais on va le répéter. La microangiopathie, la macroangiopathie. Vous avez des tuyaux qui alimentent tout votre corps. Quand c'est dans ces tuyaux, il y a trop de sucre, eh ben le sucre en soi est inflammatoire. Donc ça, je dis pas de sucre, je dis pas de consommation excessive et surtout pas de consommation à l'insu de votre plein gré. C'est-à-dire que, je reprends cet exemple grossier qui est l'eau des cornichons, en saumure, cornichons salés, dans l'eau, il y a du sucre. Pourquoi mettons du sucre dans cette eau? Pourquoi? Tout simplement parce que, un, c'est autorisé, puisqu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. C'est quand même intéressant. Vous voyez? Et quand vous êtes industriel, et vous vous dites, c'est un bon conservateur, ça va cacher un peu l'acidité de mes cornichons, donc c'est parfait. Il n'y a pas de complot. Les industriels, ce sont des gens qui ont de l'éthique, mais qui ont une responsabilité. D'abord, il faut nourrir beaucoup de gens, et en plus, il faut qu'il y ait de la rentabilité.
Mais pourquoi mettre du sucre, alors? Est-ce qu'ils ne pourraient pas le remplacer par autre chose?
Ah, pourquoi mettre du sucre?
Parce que c'est pas cher, c'est
parce que d'abord c'est disponible partout, parce qu'on a tous aussi une tendance à aimer le goût sucré, Voilà, on est. Je vous rappelle quand vous étiez fœtus dans le ventre de votre maman chérie, eh bien, à ce moment-là, vous déglutissiez un liquide qui était légèrement sucré. Quand vous avez tété le sein de votre maman, le lait était sucré, un tout petit peu sucré, ce qui voulait dire tu peux le boire. S'il était acide, vous auriez fait une immonde grimace et vous auriez dit non, parce qu'il y a une infection. L'acidité, c'est l'infection dans le téton. Donc voilà, donc on a un rapport au sucre, si vous voulez, on a un rapport amical. Moi, je dis pas que le sucre est un ennemi. Je dis que le sucre est un ami, mais comme tous les bons amis, il faut savoir les garder à distance.
Il faut s'en méfier.
Voilà. Non, pas s'en méfier, mais on a tous vécu un mois de vacances avec des amis en étant très heureux qu'ils viennent au début et en se disant à la fin des vacances, c'est bien qu'ils s'en aillent, quoi. Même si vous les revoyez trois semaines après. Hein.
Alors, vous pointez du doigt les sucres qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les sucres
cachés.
Ajoutés, voilà, ouais. Donc, dont on ne sait pas qu'il y en a. Donc, exactement, voilà. les cornichons, c'est parfait.
Voilà. Mais il y en a partout ailleurs. Hein. Dans les boîtes de conserve, il y en a partout. Partout. Donc, faut pas non plus vous regarder les boîtes et vous verrez. Alors, il y a 20 noms pour le sucre ajouté, mais vous regardez, il y a du sucre très très souvent. Pourquoi ? Voilà. Donc,
il y en a aujourd'hui partout.
Absolument partout.
Oui. Ouais.
Bon, si vous faites attention, vous lisez vos étiquettes, vous verrez. Il y en a partout. Et encore une fois, je le répète parce que je ne veux pas qu'on s'oppose à l'industrie. Parce que on a besoin des industriels. C'est avec eux. D'ailleurs, ils font un effort actuellement. Ce qui est incroyable, c'est que quand en 2012, il y a eu le premier texte, vous voyez, la première table ronde avec les industriels et le ministère, ils ont dit on va réduire. Ils ont réduit. Ils ont fait l'effort. Donc c'est pas il y a qu'à Faucon, les salopards, machin. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est qu'en fait, ils sont dans un cadre qui est peu réglementé. Puisqu'il y a même... Alors, depuis, il y a une taxe sur le sucre.
Hein, oui, alors, ça t'était sur les sodas, enfin...
Voilà,
bon, ouais.
Voilà. Mais la réalité, c'est que tant que c'est autorisé, et tant que ça n'est pas interdit, voilà. Je reprends ce paradoxe, quand vous êtes motard, ce que je suis, hein, puisque vous voulez que je parle de moi, je suis motard, si je n'ai pas... Moi, je mets mes gants, avec mes gants homologués, avec des petites bandes jaunes, si je ne les ai pas, je me fais arrêter, et ce sera normal. Donc pourquoi on met une règle et on met des députés autour d'un texte pour faire mettre des gants à des motards qui sont plutôt des gens assez sympathiques, croyez-moi. Et de l'autre côté, on peut mettre autant de sucre qu'on veut dans les fraises Tagada, dans les machins. Je cite Tagada, c'est générique.
Faut en citer des autres.
Hein. Dans les Carensacs,
ouais.
Que j'adore.
C'est la même marque.
Voilà.
Alors Tariq qui est spécialiste S-Bonbon.
Ouais. Luti,
ouais.
Luti.
Et on a C'est moi.
D'accord.
Enfin, toute la gamme Ferrero,
bref,
quoi. Toute la boîte Ferrero.
En fait, j'ai pas de d'ostracisme. Une fraise Tagada, c'est très bon. Hein. C'est très, très bon. Le problème, c'est que.
C'est très bon au goût.
Au goût.
Au goût, vous voulez
au
dire.
Au goût. Un, deux. Une ou deux, ça, s'en fiche. Le problème, c'est le paquet. Voilà. Donc, tant que c'est comme ça, ça restera comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je dis, la bataille collective est perdue. C'est pas grave. Maintenant, c'est la bataille individuelle. Il faut vous défendre individuellement pour ne pas être complètement dans cette série de diabète de type 2 qui est en train... C'est une épidémie hors de contrôle d'après l'OMS.
Ouais.
Non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Hors de contrôle. Vous avez 800 millions de diabétiques de type 2 qui le savent. Et on sait qu'il y en a à peu près 50% de plus qui ne le savent pas parce qu'il n'y a aucun symptôme. Et deuxièmement, vous avez... 1 milliard de pré-diabétiques. 70% dans les 10 ans seront diabétiques. Vous vous rendez compte ? Le stock devant nous, le stock est supérieur, le stock à venir est supérieur au stock qu'on a en... C'est pas possible.
D'ailleurs, les fraises dont vous venez de parler, quand on était enfant, vous et moi, docteur, alors je sais même pas si elles existaient, mais quand on a les premières, elles étaient dans des petits paquets.
Absolument.
Alors, c'est des petits paquets individuels, mais bon,
voilà.
Maintenant, aujourd'hui, c'est dans des paquets.
Ben, c'est la course à la concurrence qu'il y a beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous demandez, si vous voulez un Coca Zéro ou un truc comme ça, on va vous donner une bassine. Je veux dire, à un moment, faut être raisonnable. On peut pas les bonnes choses comme ça, hein, puisqu'on parle des fraises Tagada. Les choses qui sont un peu de l'enfance, tout. Quand on en mange un tout petit paquet, un petit pochon, c'est super, c'est du plaisir. Mais quand on en mange un paquet d'un kilo, c'est pas possible.
Là, il faudrait mesurer effectivement l'impact que ça a sur la glycémie et sur la santé.
Mais vous savez très bien que lorsque vous avez un enfant qui a, 4-5 ans, vous lui donnez un dessert sucré, pendant un quart d'heure, vous le reconnaissez plus, votre enfant. Il est complètement surexcité, il saute partout, hein, et puis 20 minutes après, il est un peu éteint.
Il a pris un shoot de sucre.
Voilà, il a pris un shoot. Bon, alors si c'est un enfant qui bouge, si c'est une petite chaudière, parce qu'il n'arrête pas de bouger, il fait du foot, il fait du machin, c'est très bien. Mais s'il est à la maison et sur le canapé, cette énergie, puisque c'est de l'énergie, il faut bien la brûler.
Docteur Alouche est avec nous. Alors, vous publiez Docteur Alouche, il est sorti hier. Hein.
Il est sorti hier, oui.
Ouais. J'ai vu que vous avez fait le lancement chez Pascal Pro. Bon, ça restera entre vous et moi.
Sucre, ah, j'en étais sûr.
Non, mais attendez, je suis obligé de le dire.
J'étais sûr.
Ah, je suis obligé de le dire.
J'ai fait aussi cet aveu.
Non, le lancement du livre, pour la sortie du livre, il était chez Pascal Pro.
Voilà.
Ouais. Tariq,
j'ai vu ça aussi.
T'as vu ça aussi? On l'a tous vu. On s'est tous envoyé la vidéo. On a tous envoyé la vidéo.
Alouche, c'est pro. C'est à cause des musulmans.
Mais pro, il a dit.
Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit, le sucre, c'est la faute des musulmans.
Ah bon?
Oui, bien sûr.
Ah ça, c'est nouveau alors.
Ça m'étonne. Allez, le docteur Alouche.
Alors, on va pas commencer.
Avec nous, 01-53-48-3000, 01-53-48-3000.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. C'est le nouveau best-seller du docteur Alouche qui est sorti hier.
Hier.
Voilà, montre-le à la caméra, docteur Alouche. Alors, pourquoi, selon vous, aujourd'hui, grâce aux capteurs qu'on trouve... Alors, les capteurs, on les trouve en pharmacie, il faut savoir que les capteurs
sont... Ou sur le site d'un laboratoire, je ne peux pas le citer.
Oui, parce que vous en citez un que vous recommandez.
Oui, parce que c'est le seul, en fait, qui vous les vend en direct sur leur site. Parce qu'il y a deux... Il y a les capteurs glucose, donc ce qu'on appelle les CGM, le Control Glucose Management, en fait, ce sont des capteurs qu'on met sur le bras, comme ça. C'est pas en ferraille, hein, donc ça fait pas mal quand on le met. Ça dure 14 jours. Et ça permet sur son téléphone de voir la variation de glycémie. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est très simple. C'est ce que j'écris dans mon livre. Pourquoi, à 30 ans, ne pas faire un test de 14 jours? Ça va coûter 50 euros. Moi, j'ai mis dans le livre 14 jours de test.
Il y a les 14 jours avec les aliments à tester pendant ces 14 jours.
Vous pouvez tester une pizzeria, un kebab, un couscous, et vous voyez tout de suite sur votre téléphone ce que ça fait. Donc, si à 30 ans tout va bien, vous referez ça dans 5 ans. Et puis, par contre, quand la ménopause arrive, ou l'andropause arrive, où on a 50 ans, on a 60 ans, on a un peu de ventre et tout ça, ça vaut le coup de voir. Et si on voit qu'un bout de pain, ça vous fait monter là-haut, à ce moment-là, vous le savez. Alors, ça changera peut-être rien. Mais si vous le savez, votre cortex frontal, là, qui contrôle tout, il va se dire, pas bon pour moi, ça. Voilà.
Ça vous donne quoi? Ça vous donne des courbes?
Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai fait, premièrement, dans le livre, il y a quatre parties. La première partie, c'est la relation avec le sucre. Il faut vraiment la comprendre. La deuxième partie, c'est de faire un test pour savoir où on en est. Ça s'appelle Fine Risk. Et vous pouvez d'ailleurs faire ce test sur le site docteuralouche.com. Il y a tout le test qui est prévu.
C'est les Finnois qui ont demandé ça.
C'est les Finlandais, les Finlandais qui ont fait ce test il y a une vingtaine d'années, qui est extraordinaire et qui est très bien. Moi, je l'ai un peu amélioré. Je n'ai pas cette vanité, mais j'ai ajouté le fait qu'il y a quelque chose de très important. C'est l'hérédité. Quand on a un parent diabétique type 2, on parle bien du type 2, hein, 90% des diabètes, on a 30% de risque d'être soi-même diabétique. Quand on a deux parents, on a 50 à 60%.
Alors, c'est sous forme de questions,
de questions.
Et quand vous dites qu'on peut le trouver sur votre site, c'est gratuit.
Oui, c'est gratuit.
Free.
Oui.
Alors, il faut dire que quelque chose.
Voilà, absolument. Bon, c'est gratuit.
Ça vous donne quoi? Donc, ça vous donne quoi?
Un score.
Un score,
Et vous dit, vous avez intérêt à faire, pas intérêt à faire, et ainsi de suite. Et après, il y a un programme qui s'appelle GLYC, G-L-Y-C, auquel les gens peuvent s'inscrire s'ils le veulent, et qui leur permettra justement de les aider à lire les courbes.
Les courbes quotidiennes.
Voilà, quand vous avez les courbes sur le téléphone, vous êtes tout seul, vous dites qu'est-ce que je fais. Et en fait, c'est assez simple. Vous avez un range, en fait, ce qu'on appelle le range, en fait, les zones entre 0,70 g par litre et 1,60 g par litre, qui sont les zones normales, où c'est normal d'avoir des excursions de glycémie. Et puis, vous avez hors des zones. Quand vous êtes hors des zones, que ce soit en haut ou en bas, à ce moment-là, il faut aller voir votre médecin, il faut en parler avec lui, il ne faut pas attendre. Même si vous allez parfaitement bien, parce que le problème du diabète, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, vous allez juste voir. Souvent, les gens découvrent qu'ils ont un diabète, vous savez quand? Quand ils font un crédit.
On leur demande
l'assurance. Et alors, ils disent, mais monsieur, vous avez une glycémie qui est trop élevée. Voilà. Et donc, en quatrième partie, il y a une façon de se débarrasser de ses envies de sucre et de pouvoir perdre un peu de poids, parce qu'on en est tous là. On a tous du poids à perdre. Parce qu'on est dans une société sédentaire. Et donc, il faut lutter contre la sédentarité. Le sucre ne suffit pas pour rendre malade. Il faut la sédentarité.
Mais l'organisme a besoin de sucre.
Oui. Mais il le fabrique.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire que le sucre qu'on ingère, l'organisme n'en a pas besoin.
Non. Il peut le faire lui-même. peut le faire à partir des protéines et des graisses. Et puis il y a des produits qui sont naturellement riches en sucre, comme les légumineuses ou les féculents.
Mais et ça, ça suffit pour, pour ce dont le corps a besoin.
Pourquoi, d'après vous, on nous a mis 6 à 8 mètres d'intestin grêle pour transformer les aliments en glucose? Bien entendu, on prend les vitamines, on prend les minéraux. Et ce glucose, c'est pas le cas. C'est celui qui va permettre de faire l'ATP. C'est l'ATP qui fait l'énergie. L'adénosine triphosphate. C'est-à-dire que dans chaque cellule, vous avez un petit élément qui s'appelle la mitochondrie et qui est la centrale nucléaire de la cellule et qui va transformer cette alimentation en énergie. Voilà. Et d'ailleurs, plus on sollicite les mitochondries, et mieux on va.
Donc ça, c'est le glucose. Et alors, le sucre blanc qu'on ingère, c'est du...
C'est du glucose et du fructose. Le sucre blanc, le saccharose, ce qu'on appelle un disaccharide, disaccharide, sucre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une molécule de glucose, une molécule de fructose. Le glucose, toutes vos cellules peuvent s'en servir tout de suite, vos muscles, votre cœur, votre cerveau, tout le monde peut s'en servir, s'il y a de l'insuline, bien sûr. Et le fructose, il faut qu'il soit transformé par le foie. Souvenez-vous, on avait fait une émission là-dessus.
Oui. Et est-ce qu'il y a eu de mal à comprendre des téléspectateurs à la télévision la dernière fois?
Oui.
Je vous ai envoyé son commentaire et qui comprenait pas pourquoi vous disiez que le fructose n'était pas un sucre comme les autres.
Non. C'est pas un sucre comme les autres parce que nous ne sommes pas comme certains mammifères ou comme les singes. On peut pas utiliser le fructose directement. On n'a pas les enzymes. Il faut que le foie le transforme en glucose.
C'est le seul sucre qui est géré par le foie.
Oui, il est géré. Non, le foie gère tous les sucres. Le glucose, parce que c'est lui qui fait les réserves de sucre. Mais il a une fonction supplémentaire. Il faut qu'il transforme le fructose en glucose. Et quand il a trop de fructose, il fait du gras, parce qu'il le stocke sous forme de gras.
C'est ce que comprenait pas le...
Voilà. Mais c'est normal aussi,
si vous
voulez, en 3 minutes.
Parce que vous avez dit que le risque, c'était de faire une mâche.
Une mâche. Oui, parce que maintenant, ça s'appelle une mâche.
La mâche, maintenant.
La stéatose hépatique, il y a eu un congrès il y a 3 mois, qui a décidé que... Vous savez pourquoi ? Parce que normalement, dans la stéatose hépatique, le foie gras, il n'y a pas de fibrose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte structurelle du foie. Mais dans la NASH, la définition de la NASH, non-alcoolique stéatose hépatique, il y a un début de fibrose. Donc ils ont dit la MASH, c'est le foie gras pur, sans complications. La NASH, c'est le foie gras avec début de fibrose.
Ah, on garde les deux alors ?
On garde les deux.
On garde les deux, mais
ça dépend de votre stade.
Mais la plus courante, ça sera la MASH.
Voilà, la plupart des gens ont des MASH qui sont réversibles.
D'accord. Et donc c'est pas lié à l'absorption forcément d'alcool ?
Non. Aujourd'hui, c'est lié au sucre. Et pas que le sucre en poudre. Quand vous mangez des féculents, qu'est-ce que c'est un féculent ? Féculent, c'est une association de glucose attachée, des milliers de glucose attachés. Quand vous les avalez, eh bien, ils vont être découpés et stockés ou utilisés. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sédentaire, si vous êtes actif tout le temps et machin, quand vous étiez en France, il y avait, dans les années 60, je crois qu'il y avait 20% de gens qui vivaient de l'agriculture, qui sortaient le matin, qui s'occupaient des bêtes, c'est un métier incroyable.
Ouais.
Ils bougeaient. Il y avait les cantonniers sur les routes, il y avait les ouvriers sur les bâtiments, la France était en pleine expansion, les gens, ils bougeaient beaucoup. Il y avait moins de transports en commun, il y avait moins de voitures, il n'y avait pas de trottinettes, il n'y avait pas de vélo électrique. Ben, on bougeait. Aujourd'hui, même le repas de midi et du soir, on se le fait livrer. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire que le français des années 60, qui a servi en fait de référentiel pour l'alimentaire, le français des 2020, il n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, il brûle beaucoup moins. La vraie problème, dans ce livre, on aurait dû mettre sucre, j'aurais dû mettre sucre, sédentarité, ennemi avec un S, public numéro 1. Parce que c'est la sédentarité aussi qui est le complice du sucre. Je parle même pas...
Oui, vous parlez du sucre et de ses complices.
Et de ses complices.
Parce, voilà, parce qu'il a besoin
C'était en fait le titre que je voulais au début, on a discuté là. Et en fait, le sucre, il y a le sucre, les additifs alimentaires, les perturbateurs endocriniens. Je rappelle que l'organe qui fabrique l'insuline, c'est le pancréas. Et le pancréas, c'est une espèce de glande un peu molle qui est au fond derrière l'estomac et qui est qui a deux parties. Une partie qui fait des enzymes pour digérer, c'est ce qu'on appelle la fonction exocrine, parce que elle crache ses enzymes dans le tube digestif, donc exo, d'accord ? Elle fait les protéases, pourquoi ? Pour digérer les protéines. Elle fait les lipases pour digérer les lipides, et ainsi de suite. Mais il y a une petite partie qui est endocrine, c'est-à-dire qu'elle fait l'insuline. des cellules très très qui sont vraiment des moins de 10% du pancréas et elles font l'insuline. Vous comprenez? Donc et c'est endocrine parce que c'est déversé dans le sang. Mmh. Vous comprenez bien que quand vous avez des perturbateurs endocriniens, ils vont bien entendu s'attaquer d'abord aux glandes endocrines. Voilà, c'est pour ça que les perturbateurs endocriniens, quand je vois ce qui s'est passé pour le bisphénol A, où il y a eu des je le mets dans mon livre, hein, un nombre de seuils et au bout de 20 ans, c'est pas possible, quoi. Il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête. C'est pas l'industrie agroalimentaire. Alors
c'est marrant parce que vous dites que finalement les industriels, bon, ben voilà, ils font leur métier, ils sont là pour gagner de l'argent, c'est normal.
Oui.
Mais quand même, ils exagèrent.
Non. Non, ils n'exagèrent pas. Ils sont dans un cadre réglementaire. Je peux vous assurer, vous avez déjà visité une usine alimentaire ? Ils sont dans un cadre réglementaire extrêmement, extrêmement pour la fabrication, pour l'hygiène, pour la propreté, pour le suivi, pour le contrôle qualité, pour la traçabilité. Voilà. Le problème, c'est que si on ne leur dit pas. Et puis les perturbateurs endocriniens, c'est pas seulement. C'est aussi les ingrédients.
Mais alors,
c'est les pesticides, c'est plein de choses.
Ouais, mais alors pourquoi ne pas commander une grande étude qui prouverait la toxicité du sucre sur l'organisme ?
Eh bien, vous avez les financements.
Non, mais c'est la question, c'est de savoir pourquoi ne pas faire finalement une grande étude et dire voilà, on a prouvé la toxicité à long terme du sucre sur votre organisme.
Alors
là, ça mettrait peut-être. Parce qu'on est dans un pays d'études.
Oui, je vais répondre en deux phases.
Vous voulez répondre après la pub ou avant la pub ?
Après la pub.
Parce que là, on fait grimper le.
Après. Oh là là.
On fait grimper le suspense. Vous voyez,
Non, après la pub.
Bon, et vous pourrez, après la pub, poser vos questions au docteur Alouche sur 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le docteur Réginald Alouche qui est avec nous aujourd'hui, qui publie Sucre, l'ennemi public numéro 1 chez Albin Michel. Et vous nous proposez dans votre livre de faire un test pendant 14 jours pour vérifier l'utilisation du sucre par notre organisme grâce à des capteurs.
Exactement.
À ces nouveaux capteurs.
Parce que vous êtes chacun différent. On est tous différents les uns des autres. Personne ne peut dire si la femme ou l'homme de 30 ans à 50 ans réagira de la même façon et s'il réagit de la même façon que son mari ou que sa femme. Donc en fait, c'est très individualisé et moi je suis pour cette médecine individualisée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie de médecine qui a fait une publication il y a 6 mois, je pense que vous êtes au courant, qui dit médecine personnalisée aujourd'hui. On a les moyens avec les capteurs de faire de la personnalisation. Et ce pouvoir... Pourquoi ne pas le donner aux patients eux-mêmes ? Pourquoi si vous êtes diabétique demain, voilà, un jour vous arrivez, vous avez 1,26 g de glycémie, on vous dit « Ah, vous êtes diabétique, alors on commence, on vous met le capteur, on vous met au régime, on vous donne les médicaments, mais à 1,22 g, on ne le fait pas. » Eh bien moi je suis désolé, avant 1,26 g, c'est réversible. Ben, je préfère, si j'ai 1,22 g, m'occuper moi-même de mon problème et prendre les décisions. Si je les prends, si je ne les prends pas, c'est autre chose.
Après 1,26 g, c'est plus réversible. Donc voilà. Ça dure 14 jours. À faire à quelle fréquence, docteur Alouche ?
Alors moi, je pense que quand on est en forme et qu'on n'a pas d'autres problèmes, on peut le faire tous les 5 ans. Comme la coloscopie. La coloscopie, tout le monde se dit, bon, aujourd'hui, il y a le test de la sécurité sociale tous les 2 ans. Eh ben, on le fait tous les 5 ans, si on va bien. Si on ne va pas bien, et si on voit qu'on a une forte hérédité, c'est-à-dire un parent ou deux parents diabétiques ou un diabète de grossesse, vous savez que les femmes qui ont eu un diabète gestationnel, elles ont un risque de 50% supplémentaire d'être diabétiques après 40 ans. Eh ben, je fais le test. Voilà. Il est bon. J'oublie. Je vais pas... Parce que un des reproches qu'on peut faire, c'est de dire, oui, mais les gens vont devenir complètement obsédés par leur glycémie. Je suis pas d'accord. Moi, on sait très bien qu'on a intérêt à faire un bilan régulièrement, tous les 2 ans, pour savoir comment on va. Puisqu'on est dans... On est quand même un peu assiégé, hein. On est assiégé par plein de produits qu'on ne connaît pas. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Enfin, l'eau, j'ai pas besoin de... Hein, en ce moment, voilà. Alors même l'eau qu'on achète.
Ouais, parce que même l'eau qu'on pensait sécuriser...
Voilà. Donc, nous sommes des forteresses assiégées. Eh bien, la seule façon de se sortir de ça, c'est de faire des sorties. Vous savez que les forteresses assiégées sont toujours toutes tombées. La seule façon, c'est de faire des sorties et d'essayer de combattre l'ennemi.
Alors, je vous demandais avant la pub, pourquoi ne pas commander une étude
oui.
de grande échelle pour finalement évaluer la toxicité du sucre sur l'organisme et sur la santé. D'ailleurs, des sous pour ça en plus.
Alors, d'abord parce que la bibliographie est pleine d'études qui montrent la toxicité à haute dose de la consommation excessive de sucre. Hein. Il suffit de taper PubMed, où vous avez toutes les publications. Ça, c'est les seules publications sur Internet qui sont dignes de foi, parce qu'elles ont été revues par des comités de lecture, je le dis. Hein, parce que souvent, vous avez des trucs qui apparaissent sur Internet, vous ne savez même pas qui a écrit ça. Et donc, la première chose, c'est que, on le sait, le sucre est inflammatoire à haute dose. Pas moi qui le dis, sont des études.
Alors ça fait quoi haute dose? Parce qu'après, c'est la dose qui fait le poison, souvent on dit. Alors...
Ben, c'est-à-dire que normalement, par exemple, l'OMS dit qu'on devrait consommer moins de 50 grammes par jour, c'est-à-dire 10 carrés de sucre, par personne et par jour, incluant les sucres cachés.
Donc c'est équivalent, donc ça fait
voilà. Ça. Ouais. Les Français, à peu près, aujourd'hui, sont à plus de 100 grammes. Voilà. Donc, parce qu'il y en a partout. Mais on ne compte même pas. Les féculents. Les féculents, c'est des charges de sucre. Hein. C'est quoi le féculent? C'est de l'amidon. L'amidon, c'est le sucre de réserve pour les plantes et pour les céréales. Donc, en fait, cette étude-là, sur la toxicité, on l'a. Par contre, il faut bien voir, encore une fois, qu'en fonction de votre âge, de qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre environnement culturel, cultuel, les choses peuvent changer du tout au tout. Voilà, donc... C'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué. Et dans ce cadre, être raisonnable, c'est vraiment très, très important. Très important.
Donc, il n'y aura pas d'étude. Donc, il n'y aura pas d'étude qui prouvera, finalement, qu'à partir de telle dose, bah, le sucre, c'est mauvais pour la santé.
Vous savez, je vous donne... Vous pouvez le dire de n'importe quel aliment. Vous connaissez ce... l'eau n'est pas toxique. Si vous buvez 5 litres d'eau, votre rein, il va devenir complètement... Et pourtant, c'est de l'eau. Donc, voilà, le sucre et l'eau, c'est le même combat. C'est-à-dire que quand c'est trop, c'est trop. Et on le sait, au fond. On le sait bien. On sait que quand on mange deux gâteaux, eh ben, c'est moins bien que si on en mange un ou si on n'en mange pas.
Vous, ce que vous attendez du président Macron, c'est qu'il prononce « Consommer trop de sucre peut à moyen et long terme provoquer chez certains individus l'apparition d'un diabète de type 2 ou d'un diabète de type 1 tardif. »
Voilà, ce que je ne veux pas, c'est que le diabète continue. Mais c'est normal en tant que médecin. Je ne veux plus voir des gens passer du pré-diabète au diabète. Je ne veux plus voir des gens passer de l'état normal à pré-diabète. Leur santé, c'est leur capital le plus cher, celui qu'ils ne pourront pas racheter même s'ils ont 10 millions à la banque. Vous avez 10 millions à la banque, vous êtes malade, votre vie change. D'accord ? Vous avez beau avoir 10 millions. Donc, il faut vraiment se mettre... Et pour ça, il faut un combat individuel. Individuel. C'est-à-dire qu'il faut s'en occuper. Voilà. Et si ça coûte 50 euros tous les 5 ans, eh ben, c'est pas très très cher. Ça fait 10 euros par an. Hein ? Ça fait 1 euro par mois.
Alors, est-ce qu'il est prouvé que le sucre est une addiction durable ?
Alors ça, c'est le débat. Le débat, si vous avez 3 jours de colloque, on peut le faire. Pourquoi ? Parce que vous avez vous savez, pour tout ce qui est addiction et drogue, vous avez une classification qui a été faite par des psychiatres américains et qui dit, pour que ce soit addictif et drogue, il faut qu'il y ait modification de la relation sociale, il faut qu'on cherche sa substance. Ouais. Sur les 6 paramètres, je crois qu'il y en a 3. Voilà. Bon, on n'a jamais vu personne se lever à 2h du matin et prendre 2 cuillères à café de sucre en poudre. D'accord ? Donc si vous prenez la définition de cette classification faite par les psychiatres, c'est pas une drogue. Maintenant, il y a des phénomènes d'addiction larvée. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le sucre plus le gras, la madeleine de Proust, c'est une madeleine. C'est sucré et gras. C'est les deux qui marchent ensemble. Et d'ailleurs, il y a une très belle publication il y a 3 mois qui a montré qu'en fait, vous savez qu'on a dans le cerveau, on en a parlé souvent, un centre qui s'appelle le centre de la récompense, qui s'appelle le noyau accumbens. On sait aujourd'hui qu'en fonction de ce qu'on donne à manger à ses enfants, on peut... Parce qu'avant, moi j'ai été formé sur l'alimentation de l'enfant. On m'a dit, pas de régime chez les enfants, ils sont en pleine croissance. Et j'avais tendance
c'est
à
des croire. Chaudières.
C'est des chaudières.
Ouais.
Ils vont tout
manger,
brûler,
n'importe quoi.
Arrêter
ouais.
avec vos histoires, ouais. machin. Maintenant, on sait que le fait de manger des choses grasses et sucrées chez les enfants, ça modifie le circuit de récompense. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il va aller rechercher ce plaisir-là. Alors, intuitivement, on pouvait d'ailleurs le comprendre, mais ce n'était pas prouvé. Aujourd'hui, ça l'est. Voilà. Donc, l'alimentation de l'enfant, c'est important. Et toutes les mamans qui nous écoutent et les pères qui nous écoutent savent très bien qu'il faut qu'ils éduquent leurs enfants en leur expliquant ce qui se passe. Parce que les enfants, regardez le mercredi après-midi à la télévision, ils sont noyés
de publicité
pour des aliments qui ne sont pas des aliments très très sains. Bon, c'est le business qui veut ça. Mais la réalité, c'est que s'ils passent sur allez, 2 heures de télévision le mercredi après-midi, que vous avez autorisé des dessins animés et tout ça, machin. Eh bien, s'il a fait, il a donc avalé à peu près 12 minutes de pub, et enfin, vous passiez au moins 12 minutes.
À lui facile, 12 minutes.
Hein. Au minimum, le même temps à lui expliquer ce que c'est que l'alimentation. Voilà, ça c'est important, c'est ça le rôle de parent. Parce qu'il va être confronté à une offre pléthorique. Un magasin de chaussures aujourd'hui ferme, vous avez une supérette. D'accord ? Donc c'est pas possible, ça peut pas. La bouffe est partout. Partout. L'offre est partout. Et vous savez très bien que la demande, elle dépend de l'offre. Si je vous mets sous le nez, alors qu'on n'a pas faim, quoi qu'il est,
il est 12h46, voilà, le docteur Alouche.
On vous met un gros plat et machin, et même si vous avez mangé une heure avant, bah, au bout d'une demi-heure, bah, vous aurez envie.
Non, en plus, les publicités qui montrent aux enfants, c'est des sodas, des glaces, des bonbons, oui, des gâteaux.
Mais, enfin, de temps en temps, je m'en fiche, on s'en fiche. C'est pas le problème. Mais tout le temps, c'est pas possible. Et puis maintenant, c'est devenu un critère. Je me souviens d'une maman qui me disait j'ai suivi vos conseils, le goûter, je leur ai donné un bout de baguette tradition avec du chocolat noir. Et le fils rentre et dit maman, on est pauvre, parce qu'on peut pas acheter des gâteaux comme les autres. Voilà, on est pauvre. Voilà.
Donc, c'est tellement bon en plus.
Ouais, mais non, mais. En fait, c'est ça le problème. C'est que ça pousse le niveau, ça fait que les enfants, s'ils n'ont pas les bons petits gâteaux avec le petit pochon et le machin, ils ont l'impression qu'on les aime pas.
Ou la compote qu'on suce.
Voilà.
Mais moi, je me rappelle quand on était petit, on avait du pain et du sucre.
Voilà.
Et on disait rien, on avait du pain avec des morceaux de sucre dedans.
Ouais, souvent, on mettait un peu de beurre,
mais c'était ça le goûter.
Voilà, mais vous allez le brûler quand vous êtes môme. Ouais. Mais si c'est que des doses de sucre, c'est pas pareil.
Comment expliquer finalement que la communauté scientifique ne se soit pas emparée de l'index glycémique, peut-être plus que ça, et qu'il n'y a pas plus de vulgarisation de l'index glycémique?
Excellente question. Tout simplement parce que l'index glycémique n'est pas un bon indicateur, tout simplement parce qu'il ne tient pas compte de la quantité.
Oui, mais alors, maintenant, il a évolué l'index glycémique.
Oui,
la charge glycémique.
Voilà, bon, c'est la charge. C'est l'index multiplié par la quantité.
Mais même...
Et le problème aussi, c'est que, d'ailleurs, Jessica Chopsel le met dans son bouquin, c'est que en fonction de ce que vous allez associer, eh ben, les choses vont changer. Si vous mangez, par exemple, un steak avec des frites toutes seules, ça va monter la glycémie, parce que c'est de l'amidon. C'est que du sucre avec du gras. Mm. Mais si vous le mangez avec un steak ou avec du poulet, ça va lisser. Parce qu'en fait, il y a les éléments dans l'estomac. Quand vous avalez ça, qu'est-ce qui va se passer? L'estomac, c'est une acidité qui est équivalente à l'acidité des batteries au plomb. D'accord? C'est un pH très acide. D'accord? Donc, vous voyez, comme c'est merveilleux, en fait, parce que vous le sentez pas, mais il y a une acidité incroyable. Mm.
Donc, vous le sentez quand vous avez des remontées acides. Hein.
Absolument.
Voilà,
quand
vous avez un RGO, vous commencez à imaginer ce qui se passe.
Exactement.
Avant,
donc l'estomac, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une bouillie. Il fait une bouillie de tout ça. Et il a des contractions comme ça. Et il va pousser ensuite. Il y a un petit tuyau qui s'ouvre à la fin, au niveau du duodénum ou le pylore. Un petit truc qui s'ouvre régulièrement avec des ondes qui sont envoyées par le cerveau. Et il va aller dans l'intestin par petits bols. Et il le ferme et il l'ouvre. Et il le ferme et il l'ouvre. Et c'est comme ça que ça marche. Et en fait, quand vous avez mangé, tout ça, ça se mélange. Et vous avez compris que si vous avez vos frites avec autre chose ou avec des fibres, c'est pour ça qu'on recommande toujours, par exemple, de commencer par des légumes ou d'une salade ou quelque chose qui va compliquer, en fait.
Ouais, et puis, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de spécialistes qui expliquent bien, quand même, la notion d'index glycémique, de charge
c'est
glycémique,
vrai.
Et qui n'expliquent pas très bien ce qui se passe au niveau de l'association des...
Oui.
Parce qu'en fait, et comment on peut rétrograder finalement la charge et l'index glycémique des aliments quand on les refroidit, tout ça. Non, c'est vrai que voilà, il y a quand même du boulot à faire. Hein.
Toute notion que nous expliquons.
Non, mais vous, ça fait des années que vous les expliquez.
Je l'explique bien. Voilà. La rétrogradation de l'amidon, par exemple, le fait de mettre de l'amidon trop cuit, des nouilles trop cuites dans le frigo au bout de 8 heures, l'index glycémique a baissé.
Salade de pommes de terre, donc.
La même chose.
Voilà.
La même chose.
C'est pas la même charge qu'une...
Exactement. Donc en fait, pourquoi? Parce que après, il faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que quand vous avalez ce sucre, à ce moment-là, ipso facto, immédiatement, le pancréas fait de l'insuline. Et l'insuline, elle va faire rentrer le sucre dans les cellules, parce qu'elle a la clé pour ouvrir. Comme ça, ça passe du sang aux cellules. Et le reste qui n'est pas utilisé, il le met dans les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qu'on a autour du ventre, des cuisses, du visage. Voilà. Ça, c'est le principe. Le problème, c'est que si vous en mangez un peu, ça fait ça, il y a un peu d'insuline, et puis ça va redescendre. Mais si vous en mangez beaucoup, ça va monter beaucoup plus haut, plus d'insuline, et vous comprenez bien que si plus d'insuline, plus vous allez grossir. Et il y a aussi la variabilité. Est-ce que vous avez une courbe en dune, ce que j'explique dans le livre, ou une courbe en massif du Mont Blanc avec deux monts, ça, parce qu'il y a des effets rebonds. Et il faut juste y passer un peu de temps. C'est pas compliqué, mais il faut comprendre ça. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout.
Voilà, et vous le voyez, vous arrivez à voir l'impact en introduisant certains aliments, donc le matin au petit déjeuner, mais au déjeuner et au dîner. Il y a une question qui est arrivée tout à l'heure. Alors maintenant, il y a les auditeurs qui réclament votre numéro de téléphone, hein, qu'on donnera avant la fin de l'émission, docteur Alouche, bien sûr, pour vous joindre personnellement. Mais savoir, c'est la mode donc des détox sucrés aujourd'hui. Quelle est la différence entre ces fameuses détox sucrées que les gens démarrent à la rentrée est-ce qu'on appelle les régimes keto?
Bah, le régime keto, c'est simple, c'est aucun sucre.
Mais c'était déjà une détox sucrée, finalement, qui ne disait pas son nom.
Bah, exactement. Ouais. Quand vous enlevez tous les sucres, vous enlevez les fruits, vous enlevez certains légumes sucrés, et voilà. Pas de féculents, pas de légumineuses, et vous mangez que des protéines. Que ce soit des protéines animales, pas des végétales, forcément, parce que c'est des céréales, il y a de l'amidon dedans, donc ce n'est pas des protéines végétales. Et puis, vous avez les produits laitiers. Voilà. Le problème du régime keto, c'est qu'un mois, ça va. Au-dessus, tout ce qui est... Vous savez, il y a un équilibre entre les acides et les bases dans l'alimentation. Il y a des aliments qui vont acidifier le sang. C'est protéines animales, produits laitiers, féculents. Eux, ils ont des ions négatifs. D'accord ? Ces ions négatifs, ils vont être obligés d'être compensés par des ions positifs. Parce que la nature, votre organisme, il adore l'équilibre. Les ions positifs, ils sont où ? Dans les fruits et les légumes. Voilà. Donc, si vous voulez faire un keto... Faites un keto alpha, on va dire, où vous allez faire keto, mais vous allez quand même manger 2-3 fruits par jour et beaucoup de légumes.
Mais est-ce que vous resterez en cétogène? Parce que c'est la grande question de ceux qui font les régimes keto, de savoir est-ce que je suis...
Vous resterez en légère cétose. Mais vous savez, le problème de la cétose, je rappelle que les corps cétoniques, ce sont des corps qui sont issus de la dégradation des protéines en sucre. Et ça donne des corps cétoniques. Alors c'est très bien parce que les gens sont boostés, parce que les corps cétoniques, le cerveau, il aime bien, ça lui donne du boost. Le problème, c'est cet équilibre acido-basique. Par exemple, si vous avez le sang trop acide, c'est pas obligatoirement bon pour le rein. C'est pas obligatoirement bon aussi pour vos articulations. Je rappelle que vos articulations, entre les os, il y a un liquide, entre les cartilages, il y a un liquide qui s'appelle liquide synovial, qui est fabriqué à partir du sang. Si votre sang, il est légèrement acide, le liquide va être un peu acide. Et à ce moment-là, vous aurez un jour mal au coude, le lendemain mal à l'épaule, le surlendemain mal au genou. Vous allez voir le médecin, vous allez dire, je comprends pas, j'ai un peu, ça change, ça. Ça, c'est l'équilibre acido-basique. On avait fait d'ailleurs, je crois.
Oui, bien sûr. Mais en fait, finalement, c'est la même chose que la détox sucrée. Absolument. On arrive au même résultat.
Absolument. Absolument. Donc, c'est pour ça que, en fait, je veux dire, je pense que ce qui est important, c'est d'adapter votre régime à votre activité physique réelle. Voilà, c'est ça. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Si vous savez que vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas vous alimenter avec des sucres de réserve comme l'amidon. Donc, voilà.
Alors, à noter que dans le nouveau livre du docteur Réginald Alouche, Sucre, l'ennemi public numéro 1, vous avez donc la méthode du docteur Alouche pour rééquilibrer la glycémie.
Oui. Donc, on peut flasher un QR code.
Voilà, méthode en 3 phases.
Voilà, exactement. Et qui permet justement de pouvoir vous aider à perdre ce poids, mais surtout à réguler et éviter une trop grande variabilité glycémique. D'accord. Je sais qu'il y a des polémiques sur la variabilité glycémique. Des gens disent, mais non. Enfin, bon, un pancréas qui donne des à-coups. À un moment, le pancréas il se fatigue. Ça c'est clair. Un organe. Je l'ai dit souvent ici, mais l'organisme il adore la routine, il adore la tranquillité. Il aime pas qu'on le fatigue. Il est bien entendu très solide. Vous pouvez rester sur la Napurna pendant 10 jours à moins 40, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tout le temps, et ça nécessite une très bonne condition physique. Donc en fait, ce qu'il faut c'est trouver une routine. La vie alimentaire. C'est la routine avec des exceptions et du plaisir.
Docteur Alouche, alors vous retrouverez cette émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
Docteur
de m'avoir invité.
Alouche, très belle journée santé sur beurrefm. Et dans un instant, c'est Vanessa qui est avec vous pour vos petites annonces au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.